Parmi les écrivains qui ont subi la Shoah alors qu'ils étaient enfants, beaucoup ont gardé longtemps le silence. Et ce silence bouscule souvent les codes de la littérature dans leurs autobiographies, comme l'écrivain Georges Perec en France, membre de l'ouvroir de littérature potentielle ou LIPO, cet autre écrivain et poète franco-américain Raymond Federman et le romancier et poète israélien Aaron Appelfeld. Traqués, cachés aux quatre coins de l'Europe, les jeunes qu'on a toujours cru chanceux d'avoir échappé à l'horreur de la déportation révèlent, en faisant œuvre de mémoire et dans les langues les plus diverses, une souffrance spécifique, farouche. Malgré la pudeur derrière laquelle ils continuent à se cacher, les auteurs arrivent, par le rare du récit, à faire passer le vécu indicible de la période où l'on a voulu leur mort. Dans l'exposé qui va suivre, Adolf Nissenholz propose de prospecter l'espace de l'autofiction, ce nouveau genre littéraire. Les conditions techniques de l'enregistrement ont été difficiles, aussi une certaine indulgence est requise de la part des personnes qui écoutent ce programme.
D'emblée, se pose la question, qu'est-ce qu'un enfant caché ? Est-ce qu'il s'agit de l'enfant qui reste caché au fond de tout adulte pendant toute sa vie ? Parce que les grands restent des petits. Vous en doutez bien, mon exposé, lui, porte sur les enfants qui furent placés dans des caches durant la guerre pour échapper à la persécution nazie. Freud, qui a créé la psychanalyse en temps de paix, fait en 1918, après la Première Guerre mondiale, un rapport sur les névroses de guerre, alors qu'il est confronté à un traumatisme d'une nouvelle réalité humaine, cette guerre de 14-18. Mais s'il avait vécu en 1945, après une autre réalité inédite, aurait-il fait un rapport sur les névroses de la Shoah, et même au point de devoir révolutionner cette théorie pour pouvoir inclure l'innommable, la question reste ouverte. Mais en ce qui concerne l'enfant qui fut caché pour échapper à la déportation durant 1942-45, Freud aurait peut-être dû attendre des décennies avant de pouvoir tirer des conclusions, vu que les enfants cachés se sont tus en moyenne durant un demi-siècle après le traumatisme subi. En tout cas, alors qu'il y a de nos jours des armées de psychologues pour le moindre petit bobo psychologique, il n'y avait quasi rien pour les enfants, pratiquement rien, pour les enfants traumatisés par l'Holocauste en 1945. Les orphelinats juifs d'après la guerre fonctionnaient sans, pratiquement rien, pour les enfants traumatisés par l'Holocauste en 1945. Les orphelinats juifs d'après la guerre fonctionnaient sans. J'ai ici un livre sur la douzaine de hommes d'enfants qui ont recueilli les plus ou moins orphelins, je dis plus ou moins ceux qui étaient orphelins de deux parents ou d'un parent. Et ça a fonctionné sans psychologue. Et très très bien fonctionné. Je pourrais en parler tout à l'heure. Donc en 1945, il y a à peu près 500 enfants en Belgique qui n'ont pas trouvé de solution familiale. Sur les quelques milliers quand même qui ont été sauvés, et la Belgique, c'est un honneur de la Belgique d'avoir sauvé tant d'enfants. Et donc il y en avait qui avaient un parent qui était revenu des camps, incapable de s'occuper de l'enfant. La mère, souvent dépressive et profondément dépressive. Le père, à l'époque, les pères ne savaient pas s'occuper des enfants. Et donc, dans ces orphelinats, mais nous, on n'a jamais appelé ces maisons d'enfants des orphelinats. Parce qu'un orphelin, c'est celui qui a perdu, dont le père et la mère sont morts. Nous, on n'en était pas certains. Et donc, on a toujours appelé ça des homes d'enfants. Même jusque dernièrement, comme si on était toujours en attente du retour. Et donc, il n'y avait pas de psychologue, mais on s'occupait très bien de nous. Et on a donc pas fait parler les enfants comme on fait chez le psychologue. Il n'y avait en plus personne pour les écouter, même pas les parents. Les enfants qui étaient chez les parents, c'était encore pire que ceux qui étaient dans les homes. Pourquoi ? Mais parce que nous, par exemple, autour de la table, le grand sport, c'était de critiquer ce qu'on appelait la bouffe, alors que c'était très bon. Très bon. Mais en famille, avoir une mère qui est revenue des camps et qui voit l'enfant qui n'aime pas ce qui a été préparé, la mère ne va rien dire. Mais par son attitude, elle fera comprendre que si cet enfant, si son enfant avait été quelques mois avant ou un an avant dans les camps, c'est à quatre pattes qu'il aurait tout fait pour avoir sa seconde nourriture. Donc, à chaque repas, il y avait une sorte de sous-texte, non dit, mais rien que par un regard ou une déception. L'enfant sent très bien qu'il se sent coupable de ne pas tout manger. Oui. Donc il y a des enfants comme ça, à leur adolescence, qui ont exprimé le fait qu'ils étaient jaloux de nous, orphelins, dans les maisons d'enfants. Où d'ailleurs on ne parlait de rien, d'avant. Les éducateurs, les directeurs ne parlaient pas de la guerre. On était tous dans le même cas, on n'avait pas besoin de commencer à se plaindre de ci ou de ça. Et on a foncé dans l'avenir. On nous préparait pour entrer dans la société civile. Alors pourquoi ce silence des enfants ? Ben, je vous dis, on n'en parlait pas entre nous, qu'on avait perdu 10 oncles, 5 tantes, etc. Donc, chacun pouvait dire quelque chose. Donc ça se neutralisait. Et il y a autre chose, on se rendait compte que les gens n'écoutaient pas ceux qui avaient connu l'enfer des camps d'extermination. Et alors, on aurait écouté les petits planqués qui y avaient échappé. Et de quoi se plaindraient-ils, ces enfants ? Ne devaient-ils pas plutôt se réjouir de ne pas avoir connu l'horreur ? Et une mère le dit à sa fille, elle dit « Mais du coup tu te plains ? Tu étais au grand air à la campagne. » Donc vous imaginez ce que ça a pu créer comme problème. Alors avançons un peu dans le temps, vous savez qu'en mai 1968, on parlait de libérer la parole. On parlait et parlait. Mais la plupart des enfants cachés ont vécu quasi toute leur vie dans le silence. Plus d'un million d'enfants juifs furent assassinés par les nazis dans le silence. Et ceux qui ont échappé à ce sort en sont restés muets longtemps. La première fois que les enfants cachés se sont exprimés publiquement, c'est en 1990, 45 ans après, où il y a eu une réunion internationale à New York. Et donc c'était à l'initiative de Myriam Abramovitch qui avait fait un film sur les enfants cachés. Et sa mère avait dit, mais enfin, il faudrait réunir ces enfants un jour. Elle pensait qu'il y aurait quelques dizaines comme ça. Or, à travers le monde, en Europe, toute l'Europe occupée avait quand même sauvé pas mal d'enfants. Et donc ça représentait des milliers d'enfants. Et cette réunion s'est faite pas avec des milliers, mais quand même avec des centaines. Et ça fait un bien fou, parce que chaque enfant était isolé dans son silence. Et du coup, il a pu se rendre compte que les autres avaient connu des parcours assez similaires. Il y a pu y avoir des échanges, il y a eu des ateliers, etc. Et aujourd'hui, donc, depuis 1990, la parole s'est libérée là. Et des enfants témoignent de plus en plus, à la radio, un peu partout. Bon. Et qu'est-ce qu'on reçoit souvent comme réaction ? C'est encore la Shoah. Autrement dit, même maintenant, c'est comme si on voulait nous faire taire une deuxième fois. Et il y a pire, il y en a qui disent le génocide des Juifs n'a jamais existé. Donc, c'est encore une autre manière de dire, mais vous n'avez rien à dire, puisque ça n'a pas existé. Et en fait, les enfants cachés gênent. Ils sont les derniers témoins de l'horreur dont on a honte. Certes, l'enfant caché n'a pas été dans les camps. Il n'a pas cette expérience-là dont il peut témoigner. Mais il a d'une certaine manière porté en lui les camps toute sa vie. Et de plus en plus conscient de ça. Il était destiné à la mort. Et il voudrait témoigner pour l'enfant tué à sa place. Mais parce qu'il vit, il ne peut pas parler pour l'autre mort, ni même pour lui-même. L'enfant caché vivra dans un silence de mort. L'enfant déporté est son ombre. Un génocide, par définition, c'est éliminer un peuple. Génos en grec et kédoré, c'est tuer. L'enfant et la femme en sont les premières cibles. Pourquoi ? Mais on tue l'avenir dans l'œuf comme ça. Si on veut tuer un peuple, il faut commencer par l'avenir de ce peuple. Et donc, en 1942, qui est l'année où débutent les grands rafles, la résistance, il y a une résistance juive dans le cadre de la résistance générale, eh bien, cette résistance la plus urgente fut de créer des réseaux de sauvetage des jeunes, sauver le futur, pour les placer à l'abri dans des institutions, soit laïques, soit catholiques, ou dans des familles d'accueil. Et c'est comme ça donc que des milliers d'enfants ont pu surnager au fléau. Et il y a donc, après cette réunion de 1990 à New York, une efflorescence de récits de vie d'enfants qui avaient été cachés dans différents pays occupés par les nazis et qui posent, qui posent de manière aiguë la question du traumatisme subi. Et particulièrement, quand par leur qualité littéraire, ces récits font revivre le désarroi qu'ils connurent d'être juifs et ne pouvoir l'être. Et j'ai ici donc sur la table distribué ces livres parmi ceux qui sont les mieux écrits. Certes, la plupart des enfants dits cachés n'ont pas vécu comme Anne Frank dans un appartement ghetto, sans pouvoir sortir à la rue. En institution, un peu partout, en Wallonie notamment, ils jouaient avec les autres enfants dans des parcs de châteaux. C'était des maisons, soit de Delaunay, par exemple, l'œuvre nationale de l'enfance, qui recueillait des enfants rachitiques ou qui devaient être au grand air, et parmi lesquels il y avait des juifs cachés. Il n'y avait pas de raison que les juifs restent dans leur chambre, et donc ils jouaient avec les autres au grand air. Il y en a d'autres qui, dans les familles, jouaient même à la rue. Et ça témoigne de la grande confiance des gens qui recueillaient ces enfants. Et je peux dire que c'était mon cas. Je ne pourrais pas dire vraiment que j'étais enfant caché, puisque je jouais avec les gamins du quartier. Et ça, c'est quelque chose de très fort que mes sauveurs m'ont communiqué, m'ont donné pour la vie. Ils ont fait confiance à l'humanité des gens autour d'eux. J'aurais pu dénoncer et déporter avec moi. Ils ont préféré jouer cette... Enfin, et c'était des gens tout simples, des gens pauvres, et qui ne se sont pas posé la question de me dissimuler. Et pourtant, je savais qu'avec les camarades de rue, il y avait des choses que je ne devais pas dire. Donc j'étais quand même caché. J'étais pas tout à fait clair. Et la cache peut être vraiment vécue de manière extrêmement dramatique. Bon, quelle était la différence entre Anne Frank et les autres enfants? Anne Frank était avec ses parents. Elle ne pouvait pas sortir, mais elle était avec ses parents. Les autres enfants pouvaient parfois sortir, mais étaient sans les parents, en général. Il y a une expérience d'un enfant caché dont la mère l'a planqué dans un cagibi au moment de la rafle. Elle l'a vraiment repoussé et il est resté dans une sorte d'armoire comme ça et il a assisté à travers les bruits évidemment à toute la déportation de la famille. Il est resté 24 heures dans cette armoire. Inutile de dire qu'il a tout fait sur place et tout ça. Enfin, il se sentait tout à fait honteux, dégradé, n'ayant pas dormi pratiquement. Et donc, il a paniqué pendant 24 heures. Et il s'appelle Raymond Federman. Il a raconté son histoire ici dans La Voix, dans le débarras. En fait, c'est un Français qui a immigré aux États-Unis et qui a écrit en anglais sur une page et en français sur l'autre page. Et chaque page il est confiné, ça fait chaque fois un carré, et en fait, et donc il s'est imposé une contrainte d'écriture terrible pour toujours que ça tombe juste. Mais qu'est-ce que ça représente? Ça représente le confinement dans son armoire. Et comme il était francophone aussi, il a traduit lui-même son texte et on se rend compte que en anglais, c'est plus soft. Comme si le public américain, il faut le ménager, il était loin, il n'a pas très bien compris finalement, aussi bien compris. Tandis que la traduction française est beaucoup plus hard. Et pour les orphelins de la Shoah, être juif, c'est d'abord avoir des parents assassinés. Assassinés parce que pour ce qu'ils étaient. Pas pour ce qu'ils avaient fait. Ils n'avaient rien fait de mal. Il y a donc là une honte difficile à avouer. Comme chez les violés. Et on sait très bien que une femme violée, mais parfois très très longtemps avant d'avouer ce qui s'est passé. Et la Shoah, c'est comme un viol. C'est comme un viol. D'ailleurs, le viol peut être considéré comme un crime contre l'humanité. Et donc, ça explique une des raisons du long silence. C'est cette honte d'avoir été considéré comme ça, traité comme ça, tout à fait méprisé, persécuté. Il faut sortir de ça. Il faut émerger de ça. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'autres génocides qui ont été commis et où des survivants connaissent les mêmes problèmes. Et d'ailleurs, à Bruxelles, notamment, il y a un service social juif qui est fréquenté par des Tutsis et qui peuvent venir parler là et qui se rendent compte qu'on peut les aider avec une expérience précédente. Mais le silence n'a pas été que négatif. Ça a aussi permis de se reconstruire. Parce que ne pas en parler, en parler toujours, c'est toujours rester dans le passé, mais il faut construire son existence. Et pour les enfants qui sont devenus parents, le parent peut quand même pas se présenter de manière trop fragile. Il doit éduquer son enfant, il doit lui aussi le mener à l'âge adulte. Et donc, le silence a permis l'éducation. Ça a permis aussi de vivre avec les autres, parce que être toujours là, occupé à parler des camps, à un certain moment donné, les gens, c'est comme ça. Le silence a permis d'avoir une vie familiale et sociale, d'une certaine manière. Et donc, s'il y en a pas mal qui ont écrit, mais écrire, c'est parler en silence. Alors, ce qui a aussi déterminé le silence de ces enfants, c'est que par rapport aux rescapés des camps, leurs paroles n'avaient pas beaucoup de poids. Le rescapé du camp, c'est spectaculaire. L'enfant caché, qu'est-ce qu'il peut dire, quoi. Et ensuite, à l'époque, je m'adresse ici à ceux qui sont plus jeunes, mais les enfants n'avaient rien à dire d'une manière générale. À table, on ne parlait pas, on n'avait pas voix au chapitre à l'époque. Donc l'enfant caché qui a déjà tendance à se taire, à qui on dit « tu n'as rien à dire » par rapport évidemment à celui qui a eu l'expérience dans les camps d'extermination, il n'a pas une aventure énorme à exposer. Et encore, quand on parle des enfants cachés, on pense à des jeunes gens comme vous, ici, qui sont présents ici. Mais il y a le cas des tout tout jeunes enfants. On a tendance à dire enfant caché. Mais imaginez, il y a eu des nourrissons dans les crèches qui ont été abandonnés du fait que la mère a été prise et que les médecins sont parvenus à cacher le nourrisson dans l'hôpital. Alors il y en a qui vont dire oui, un an, deux ans, trois ans, on ne se rend pas bien compte, on est innocent. Est-ce que c'est sérieux de dire des choses comme ça? Vous croyez que l'enfant qui prenait le sein, notamment, tout à coup, la mère n'est plus là et il ne se rend pas compte, vous croyez? D'autant plus qu'on sait que les premières années sont les plus importantes. C'est peut-être celles dont on se souvient le moins. Et pourtant, c'est là où on se forme le plus. Donc, c'est là où on ressent les choses d'une manière la plus forte. Ce n'est pas intellectualisé, mais c'est profondément ressenti dans le corps et dans son âme, dans son esprit. Donc, on constate que ce sont les plus jeunes qui, aujourd'hui, sont parvenus à peut-être moins bien se redresser que les plus âgés. Parce que les plus âgés savaient pourquoi ils étaient cachés. Ils voyaient, ils savaient que... ils comprenaient le mot persécution, ils comprenaient le racisme, ils comprenaient... Mais un tout petit enfant, vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez, ces mots-là, nazi, tout ça, ça ne veut rien dire. Alors, on dit au petit qu'on l'adore, on le chouchoute, on l'embrasse et tout ça. Et puis tout d'un coup, ceux qui disent qu'il adore ne sont plus là. Alors, aimer, c'est ça, l'amour, c'est ça, c'est des paroles. Et puis en acte, on vous laisse tomber. Donc, ça a fragilisé très très fortement les plus jeunes. Alors aujourd'hui, comme les enfants cachés voient que de plus en plus d'anciens des camps disparaissent, ils se rendent compte que c'est à eux à prendre la relève et ils se sentent donc une responsabilité pour témoigner. Et surtout, avec leurs autobiographies, ils essayent de briser le mur du silence. Alors, vont s'exprimer comme ça des auteurs qui vécurent enfants dans un pays de l'Europe occupé, et particulièrement pour certains, par des œuvres qui se révèlent être des recherches littéraires. Parce que le problème est, comment raconter? Comment raconter son récit? Vous avez plein de témoignages, même des gens qui recueillent le récit d'un autre, mais il n'y a pas de style. Et donc, ça peut intéresser l'historien, mais un lecteur qui aime de la littérature, qui aime de lire, qui qui a envie d'avoir le plaisir de la lecture, le plaisir du texte, comme dit Roland Barthes. Ça, c'est beaucoup plus rare. Et donc, il y a par exemple Saul Friedlander, qui est un historien du nazisme, qui écrit son autobiographie « Quand vient le souvenir ». Et ce livre a servi de base à une psychologue qui s'appelle Nathalie Zaid, et qui finalement donne les caractéristiques de l'enfant caché. Et pour elle, l'enfant caché était des morts vivants. Des enfants adultes. Parce que du jour à la minute même, vous êtes dans une famille d'accueil, plus question de faire des caprices et tout ça, vous devez vous comporter comme un adulte pratiquement. Pas question d'embêter les gens qui vous accueillent. Et ça, ça a été constaté des plus jeunes jusqu'aux plus âgés. C'est des confiés abandonnés. Parce que donner son enfant, c'est un acte de confiance énorme. Mais en même temps, abandonné. C'est des acculturés déracinés. Des sages enragés. Donc sages, parce qu'il faut être tranquille, il ne faut pas mettre en danger ceux qui vous sauvent. Mais en même temps, il y a une rage intérieure. Vous avez par exemple André Glucksmann, qui est un philosophe, et qui parle d'une rage d'enfant. Ces enfants sont francs, mais dissimulateurs, puisqu'ils ne peuvent pas dire qui ils sont. Ils sont de terribles solitaires, au milieu des autres. Parce que... Et pourtant... Ils vivent dans la solidarité. Vous voyez, il y a plein de contradictions comme ça. Ces enfants sont dans une tension terrible. Et alors, Nathalie Zaid, elle a une belle image. Elle dit finalement, si on voulait rattacher ça à une image biblique, mais c'est la figure de Moïse qui apparaît. Vous savez que Moïse avait été abandonné dans un petit berceau au fil de l'eau. Et qu'il a été sauvé lui aussi, recueilli. Voilà. Mais c'est dire tout ça, le nœud des contradictions pénibles dans lesquelles l'enfant caché doit se débattre, et c'est là, finalement, durant toute son existence. Histoire d'une vie, Aaron Appelfeld, met en évidence la question fondamentale, comment surmonter la honte de parler de soi ? Comment parler quand on a perdu sa langue, quand on a tout perdu? Donc ça, c'est un fil conducteur de son autobiographie. Et vous voyez que ces écrivains commencent à poser des questions qui sont au-delà de simples rapports du procès verbal. Je suis né à tel endroit, j'étais caché chez monsieur, madame Mintel, etc. qui sont le lot des communs des récits de vie. Et à travers la plupart de ces ouvrages, mais j'ai pu montrer dans l'ouvrage collectif où j'ai réuni pas mal de spécialistes lors d'un séminaire à l'ULB, un grand problème qui se pose continuellement, non seulement quand l'enfant est caché, mais dans sa vie aussi, c'est qu'il est pris entre une fidélité à sa famille, voire à sa religion si elle est pratiquée, et d'un autre côté, la trahison. Puisqu'il doit s'acculturer à un autre milieu, que ce milieu soit religieux ou laïque. Or, Boris Cyrulnik, que vous connaissez, qui a été un enfant caché, il intitule ceci « Je me souviens ». Or, il avoue que ses souvenirs sont déformés. Il se souvient qu'il avait été emporté par une camionnette, planqué sous un matelas d'une mourante. Il se souvient qu'il avait été emporté par une ambulance et qu'un officier nazi a laissé partir. Mais ça, c'est le souvenir qu'il a en tête. C'est en revenant sur les lieux et en retrouvant qu'en fait, il avait été mis sous un matelas d'une femme qui était occupée à mourir, mais qui a survécu, et qui a pu lui dire ça, qui lui a pu lui dire, c'était pas du tout une ambulance, que n'a pas, c'était pas un véhicule de sauvetage. L'officier nazi n'a pas été gentil. Il ne faut pas croire qu'il y avait quelqu'un qui voulait te sauver. Et donc lui, il a tout transformé. Pourquoi ? Mais parce que cette réalité était trop dure. Et donc pour souffrir moins, il a converti tous les paramètres négatifs en positifs. Bon. Alors ça s'impose quand même une question. C'est que ce que je suis occupé à dire là, c'est presque dangereux, parce que ça donne du grain à moudre aux négationnistes qui disent « mais enfin, ils ne peuvent pas se souvenir ». La preuve, c'est que un grand psychologue comme Cyrulnik avoue même qu'il se trompe. Mais à ça, il faut simplement dire que c'est sa vérité à lui, c'est son imaginaire qui a joué, et on peut comprendre pourquoi. Il a en fait mis un peu l'arbre qui cache la forêt, il s'est préservé. Par un faux souvenir, il se préserve. Et on fait tout ça d'ailleurs, on fait tout ça. Alors, si tout le monde le fait, l'enfant caché ne pourrait pas le faire. Mais surtout, alors, ce qu'il faut faire, c'est que si vous voulez avoir plus d'objectivité, ben, il faut lire les historiens, parce que les historiens, eux, se fondent sur des documents écrits, sur des preuves écrites, et qui recoupent. Et s'ils ne peuvent pas recouper, ils ne retiennent pas le fait. Donc vous aviez quelqu'un comme Maxime Steinberg, qui était un spécialiste de la Shoah en Belgique. Lui, il n'interrogeait pas les gens. Il savait que c'était continuellement... Il y avait des trous de mémoire, on confondait les dates, on confondait les deux événements, et tout ça. Mais dans les autobiographies littéraires, ce sont des écrivains qui mettent sur papier leur imaginaire. Et ça, c'est quand même... c'est une vérité aussi, ça. C'est leur vérité. C'est pas nécessairement une vérité objective, mais c'est une vérité vécue. Parce que dans ces récits-là, qui sont traités de manière littéraire, c'est l'imagination qui parle. Et c'est une imagination qui parle à une autre imagination, qui est le lecteur, et qui fait qu'il va être... qui va entrer dans ce monde et essayer de le comprendre. Je me permets de vous dire que c'est peut-être même la Gestapo qui m'a sauvé. Parce qu'un jour, on sonne à la porte, c'est moi qui veux ouvrir. Donc, avec quelqu'un, je suis tout petit, plus petit encore. Et donc, c'est un gestapiste qui entre. Et pourquoi est-ce qu'il est venu là? Il n'était pas venu pour moi. Il était venu pour le beau-frère qui devait aller travailler en Allemagne, mais qui ne voulait pas travailler pour les Allemands. Parce que vous savez, comme l'Allemagne était vidée de ses hommes qui étaient sur tous les fronts de guerre, il fallait faire tourner les usines de l'Allemagne et les usines de guerre. Et donc, ils ont exploité le travail forcé. Et donc, ils ont convoqué tout le monde à aller travailler là-bas. Donc lui, il est parti en Ardennes. Et donc, voilà le gestapiste qui est là. Et l'homme qui m'a gardé, qui me sauvait, il faisait comme ça derrière son dos pour que je parte, et moi je restais. Moi je restais. Mais c'était peut-être la meilleure cache, parce que si je m'étais sauvé, j'aurais mis la puce à l'oreille de cet homme. Et mon oncle, que j'appelais Nuncle dans le patois bruxellois, c'est des Flamands de Bruxelles qui m'ont sauvé, mais qui s'efforçait d'apprendre le français pour moi. Après la guerre, on a retrouvé des carnets où M. Verlaine faisait des conjugaisons en français pour... Et donc, il a fait asseoir ce gestapiste, il était debout à côté de lui, et évidemment, je ne sais pas comment il faut l'appeler, cet homme s'énervait et tout ça, mais où il est... mon oncle disait, on ne sait pas où il est, on s'est disputé, il est parti. Voilà comment il a répondu. Qu'est-ce que l'autre ne pouvait rien dire à ça. Il est reparti enragé. Il était venu pour une mission et il ne m'a pas vu. Et donc il a remonté la rue, au haut de la rue, parce que c'était un sens interdit. Enfin, il n'y avait pas de rue de passage. Et la voiture de la Gestapo était là, au haut de la rue, et attendait. Alors, moi, je me suis dit, il n'y a pas si longtemps, je me suis dit, mais c'est peut-être ce gestapiste qui m'a sauvé et qui a fait que j'ai pu jouer à la rue. Parce que les gens dans la rue ont vu que la Gestapo était là. Vous pensez bien que c'est bon. Donc, si on m'a laissé, c'est que c'était normal. Il n'y avait pas lieu de me dénoncer. Parce qu'après la guerre, on a trouvé un nid de rexis dans la rue. Et ils ne m'ont pas donné. Or, à l'époque, dans la rue, on allait les enfants d'une famille à l'autre, comme ça. Les portes étaient ouvertes à l'époque. C'est pas comme maintenant, avec des caméras et tout ça. Bon. La manière dont je vous raconte ça, c'est peut-être aussi un peu forcé. Parce que j'essaie de mettre l'humour comme ça sur une situation qui était extrêmement tendue, dramatique et qui aurait pu devenir tragique. Mais c'est peut-être à ça que sert l'humour aussi, c'est dépasser le tragique. Alors, l'âge des enfants, dans les autobiographies, je vous en ai parlé il y a un moment, ça va en fait de l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 3 ans, qui était mon cas. Et quand on regarde les dates de publication des livres, c'est échelonné entre 66 et pour Cyrulnik, 2009, et même 2013 pour moi. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, c'est un des premiers à en parler. C'est Kosinski, Oiseau bariolé, c'était écrit en polonais. Mais lui, c'était tout à fait fantasmé. Tout à fait fantasmé. Il a avoué ça, il a retrouvé ses parents et tout ça. Donc, c'est un enfant vraiment martyrisé dans toute la Pologne, comme ça, c'est atroce. Et donc, il en parle en 66. Pourquoi? Ben parce qu'il peut inventer. Ceux qui commencent à raconter des faits qui leur sont arrivés, ça commence bien plus tard. Vous avez par exemple Georges Perec. Il écrit le W, le souvenir d'enfance, bon. En 75. Il a 39 ans, c'est quand même 33 ans après les événements. Bon. Et la première phrase, c'est « Je n'ai pas de souvenir d'enfance ». Mais il écrit 200 pages. Si lui, à mon avis, c'est une hypothèse que j'aimais, a pu être un des premiers à écrire, lui, il a été suivi par une psychologue, et même un grand psychologue, c'était Dolto, François Dolto. Lui, il a eu sa psychologue après, en 45, et donc qui a pu l'aider, en tout cas. Voilà. Alors vous avez Federman, qui vient après, qui écrit 37 ans après, et parmi les derniers, c'est 60. Par exemple, moi, c'était 69 ans après. Que c'est publié. Quelle était la vie au quotidien? Moi, j'étais dans une famille laïque, donc des socialistes, qui n'allaient pas à l'église. Et ça aurait pu jouer en ma défaveur, parce que dans la rue, tout le monde allait à l'église. Eux étaient les seuls à ne pas y aller. Mais en général, les enfants étaient dans des institutions catholiques, et il y a eu beaucoup de convents qui ont recueilli des enfants. Alors, se posait la question, par exemple lors de la prière, les enfants arrivaient, je ne sais pas moi, jeudi, dans la matinée, et puis il y avait les prières du repas, et qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils étaient directement repérés, si... Donc, vous imaginez la tension qui devait exister. Il y a par exemple Evelyne Krief qui entend dire, mais Evelyne, Elle ne fait pas sa communion, elle. Voilà. Il y a Berthe Burkow-Falzmann. Elle écrit, voilà, l'enfant caché. Donc elle est chez les catholiques. Et puis, elle est recueillie après la guerre dans un home juif. Et elle se dit, mais les juifs de Jésus dont on me parlait, est-ce que c'est les mêmes que ceux qui sont autour de moi maintenant? Et il y a son éducateur qui lui explique qu'à Pâques, vous savez, à la Pâques juive, on mange de la matza, du pain zim. Mais ce pain zim, c'est exactement la même texture que l'hostie. Et donc, quand elle apprend ça, elle dit, mais je ne peux pas manger ça. Si je mords là-dedans, il y aura du sang. Parce qu'à l'église, on lui avait appris que mordre dans l'hostie, on ne peut pas, il y a le sang du Christ qui va couler dans la bouche. Donc vous voyez comment les enfants, quand la guerre est finie, la guerre n'est pas finie pour les enfants cachés. Vous avez Louis Beuglet. Eh bien lui, il vit donc en Pologne, pendant la guerre. Il traverse toute la Pologne avec sa tante. Et lui, c'est une autobiographie, mais il dit quand même que c'est un roman où le personnage principal s'appelle Maciek, qui a 10 ans. Et il est acculé à faire sa communion pour pouvoir se fondre dans la masse. Mais pour être ainsi sacré, il doit se rendre coupable d'une fausse confession, à savoir qu'il a été baptisé. Il doit avouer qu'il a été baptisé à un prêtre. Or, il n'a pas été. Alors, il disait, je m'apprêtais à me rendre coupable d'un sacrilège, le plus grave de tous les péchés, en recevant la communion sans avoir été baptisé, et après une fausse confession. Bref, cet enfant perd son identité. Il ne sera jamais lui-même. Et il avouera, adulte, mentir, pour moi, devenu une deuxième nature. Mentir, c'est sauver sa vie. Vous avez Renée Arnaud, qui est une Française aussi, et qui a immigré aux États-Unis, et qui écrit Touchwood, qu'elle a d'ailleurs traduit elle-même, c'est Touche du bois. Elle se trouve en Normandie, dans un couvent. C'est le débarquement, et les Alliés et les Allemands se tirent dessus le couvent, et elle promet que si elle survit, elle deviendra nonne. Elle survit, mais ses parents aussi. Et donc elle retourne dans sa famille, qui sont des Israélites pratiquants, et elle voudrait rester chrétienne, parce qu'elle est reconnaissante à ses sauveurs. Mais d'un autre côté, rester chrétienne dans sa famille, c'est pas possible non plus. Donc vous voyez les contradictions fortes dans lesquelles se trouvent les enfants après la guerre. Et donc c'est pas pour rien qu'il est parti aux États-Unis, ça résolvait d'une certaine manière le problème. Quelqu'un comme Jean-Arthur Goldschmidt, qui est un excellent traducteur de Kafka, dans La traversée des fleuves, eh bien lui, il embrasse le christianisme à fond. Il était issu de juifs passés au protestantisme, et il est caché dans une institution religieuse d'obédience romaine. Il y subit des punitions corporelles innombrables, et qu'il vit comme s'il était un martyr chrétien. J'étais sur fond d'hypocrisie, un enfant très pieux, ravi d'offrir ses souffrances à Jésus. En secret, je le tenais pour un peu pour mon grand frère. Peut-être étais-je même un peu lui. Donc, il vit une imitation de Jésus à fond. Et j'étais prêt à offrir ma mort pour le salut du monde. Il fait le Christ. Il dit donc, à la fin de la guerre, vouloir se convertir au catholicisme, je rêvais de devenir prêtre. D'ailleurs, comme Frimander, qui lui voulait devenir jésuite. Et les deux sont dissuadés de le faire par des prêtres. C'est un abbé, donc, qui lui redonne foi dans le judaïsme, qu'il valorise, et qui dit, le christianisme est inexistant sans son fondement juif. Peggy était anti-Dreyfusard. Bref, finalement, Georges Arthur finira républicain agnostique. Voilà donc un éventail des situations possibles et impossibles où l'enfant confronté à un autre culte se demande jusqu'à quel point il a à se renier. Contraint de passer de l'un à l'autre, il est objectivé dans le préjugé antisémite comme traître par excellence. Comment un affreux petit Judas, il doit en permanence se redéfinir dans le no man's land entre deux cultures, et la cessation des hostilités ne met pas fin au stigmate de la persécution. Les autobiographies à l'écriture stylisée mettent en valeur les ambiguïtés de ces vécus identitaires avec d'infinies nuances. Et en fait, quel est le problème? Eh bien, le problème pour l'enfant qui veut témoigner par écrit, c'est qu'il veut à la fois raconter et témoigner. Mais raconter, ça ne suffit pas, il faut le faire avec du style. L'autobiographie des enfants cachés n'est pas l'histoire d'une vie, mais de la mort à laquelle ils ont échappé. Le petit criminel innocent n'est pas sauvé de n'importe quelle mort. C'est celle réservée à la vermine par l'insecticide Zyklon B. Il doit donc constamment s'efforcer de prouver qu'il est un être humain. Il s'adresse à l'humanité de chacun avec les mots de tous, voire avec l'humour pour créer de la communauté. Mais il ne cesse de devoir faire comprendre le vide qu'on a voulu faire en lui. Ainsi, par exemple, Burko Falzmann, dont je vous ai parlé, elle met en scène une petite fille dont elle dit qu'elle est anorexique, squelettique. Finalement, elle a l'image de, comme si elle revivait un concentrationnaire. Ici, encore maintenant, étalon sélectrique me fait être devenir, avec ses boules orgueil foutaise, dit Sam dans son cabinet de débarras, toute boule, mais cette fois-ci, là-haut, ça va être sérieux, plus, etc. En fait, il avait raconté son histoire dans son armoire, hein, de manière très claire. Et il a dit, en relisant ça, il dit, ben, ça ne dit rien. Et donc, c'est comme s'il avait pris les mots et qu'il les avait jetés sur la table, comme il a dit, et qu'il les avait sortis comme d'un chapeau, les uns de manière chaotique. Eh bien, avec des phrases tout à fait déstructurées comme ça, il exprime sa panique bien plus que s'il avait écrit « Je suis dans le désarroi, la détresse, etc. » Donc, vous voyez les recherches littéraires, comment certains vont jusqu'au bout. Ici, il a été vraiment très loin. Et comme il s'appelle Federman, c'est l'homme de la plume. Donc, c'est l'écrivain. Donc, il doit faire l'écrivain. Je voudrais, si vous me permettez, pendant quelques instants encore, écrire un peu plus une des autobiographies qui est la mienne et qui s'intitule « Bobelet, l'enfant à l'ombre ». Alors, qu'est-ce qui a déclenché le processus d'écriture de Bobelet? Eh bien, ça a été la mort de mes sauveurs en 1980. Leur décès réveillait le traumatisme de l'abandon premier qui eut lieu à l'âge de 3 ans. Cela m'a paru insupportable. Notre histoire était finie, enterrée. Et donc, je me suis rendu compte que c'était à moi, cette fois, à les sauver. Ils avaient vu mes parents, avaient eu leur confiance. Ils étaient restés le seul lien vivant avec ces derniers partis à jamais en déportation. J'avais à les faire revivre. Mais le jour suivant, où j'avais écrit une trentaine de pages, je me rendais compte que ça ne vivait pas. Et donc, c'était raté. Le projet devait donc mûrir. Et il y a eu donc, pendant les années et des années, de la réécriture, et même de l'abandon pendant des années, je ne m'en suis pas occupé. Et un jour, la femme d'un auteur ami, a lu mon manuscrit et m'a dit « Ah, c'est très bien, mais c'est comme n'importe quelle enfance ». Et là, je me suis rendu compte que l'essentiel n'était pas passé. le texte ne disait rien de l'anxiété que j'avais dû éprouver, voire la haine pour ceux qui m'avaient jadis abandonné, pourtant malgré eux. En somme, tout le vécu réel, depuis longtemps refoulé, n'était pas là. Je restais caché derrière un masque de potage. J'avais appliqué à moi-même ce que l'on entendait dire. Tu étais trop petit pour savoir. Tu n'as pas dû te rendre compte. C'était pas grave. Et donc j'ai retravaillé mon texte pour essayer de faire apparaître ce dont je ne me souvenais pas. Et donc c'est ça qui a mis du temps à essayer de chercher, de trouver. Et un jour me vient une phrase qui était « C'est quand demain ?» qui est une phrase d'enfant qui ne connaît pas l'heure, qui ne connaît pas les dates. Et donc ça a déterminé vraiment le processus d'écriture, vraiment dit, parce que je l'ai mis au début et ça me permettait de faire raconter l'enfant. C'est non pas l'adulte qui se souvient de l'enfant, comme dans la plupart des autobiographies ici, c'est directement l'enfant, c'est quand demain. Donc ça veut dire, on apprendra que la mère avait dit « je viendrai demain », mais elle n'est pas venue. Et donc, ça implique l'attente de l'enfant, son angoisse, et c'est une parole d'enfant. Or, je tenais très fort à ça, parce que les grands enfants pouvaient écrire leur autobiographie, avec plein de souvenirs. Par exemple, Marcel Friedman, il peut dire l'heure, voilà, tel jour, je ne me souviens plus, est-ce que c'était septembre 42, à 6h du matin, je pars avec mon cousin, on va prendre le tram, tel numéro. Il a plein de souvenirs comme ça, qui est la marque d'un grand enfant. Et donc, il avait 11 ans, 12 ans à l'époque. Donc, chaque autobiographie est marquée par l'âge aussi, et par la situation de l'enfant. Donc, avec Boubelet, je pousse les souvenirs le plus loin possible, parce qu'au-delà de 3 ans, 2 ans, 1 an, 0 ans, si je veux dire, il n'y a pas d'autobiographie écrite, puisque ce n'est pas possible. Et je me suis rendu compte que plus l'enfant était grand, plus il y avait des souvenirs, plus ça avait été écrit et publié plus tôt, et plus l'enfant est jeune, mais plus il y a de l'imaginaire, plus l'enfance construit un monde. Et je m'étais dit, c'est quand même pas parce que je me souviens pas que je peux pas raconter ce qui s'est passé. Parce que l'abandon a eu lieu, le non-retour des parents a eu lieu. Des dizaines de membres de la famille sont partis dans la Shoah. Chez mon père, ils étaient 9 frères et sœurs, et revenus rien qu'un oncle. Chez ma mère, ils étaient 5 frères et sœurs. Personne n'est revenu là. Pas des grands-parents. Tout a disparu. J'ai été dans le village en Pologne où ils vivaient tous. Il n'y a aucune trace à la maison communale. L'employé a fait défiler son ordinateur. Très bel ordinateur. J'ai été très bien reçu, très poliment et tout ça. Aucune trace. Alors c'est facile de dire que ça n'a pas existé, hein. Mais alors, le problème a été comment être crédible quand même, puisqu'on pouvait dire qu'est-ce que tu racontes. Et en fait, moi j'ai pu raconter parce que, après la guerre, je retournais voir mes sauveurs. Et la femme de l'oncle, que j'appelais Tang, donc tante, elle me racontait ça. Et en fait, c'est elle qui raconte à travers l'enfant, si je veux dire. Et pour être crédible, il faut impliquer le lecteur. Et pour impliquer le lecteur, on ne peut pas faire ça avec l'écriture simple. Et il faut passer par les lois de la poétique, les lois de la rhétorique même. L'art du récit, ça ne s'invente pas. Il faut passer par là. Et donc, par la poétique, eh bien, vous pouvez rendre alors vivants les mots. Et les mots doivent être vivants. Ils doivent être incarnés. Et donc, mon récit de vie, les 30 pages dont je vous ai parlé, a évolué en roman d'inspiration autobiographique. L'ouvrage a été remis plus que 20 fois sur le métier. Les faits sont véridiques. Mais où est l'invention ? Mais l'invention est dans l'utilisation des mots, des images. Et il faut savoir que au Moyen-Âge, le poète était appelé l'inventeur. Hein, c'était celui qui trouvait les mots. C'était le trouvère, celui qui trouvait les mots, ou qu'on appelait le troubadour en Provence. Et inventer, c'est venire, c'est trouver. C'est, l'invention, c'est trouver, c'est la création. Donc, je vais bientôt terminer. Il s'agit d'une reconstitution d'une époque de la vie, le premier âge, dont en général on a guère de souvenirs. Et à la première lecture du livre, quelqu'un comme Françoise Nice, qui était journaliste à la RTBF jusqu'il n'y a pas longtemps, a écrit, a dit, « J'étais étonné de voir comment vous saviez faire passer l'émotion. » Et de fait, moi je ne veux plus de ce qu'on appelle la distanciation à la Pérec, dont on parle son écriture blanche et tout ça. À mon avis, si on veut transmettre la mémoire, on doit s'adresser à la sensibilité. Sinon, ce sera l'être morte. Et en somme, il faut faire rêver. Je sentais que cela fonctionnait quand les phrases étaient comme le résultat d'un travail de rêve. Mais pour faire émerger l'enfant, il faut retrouver sa poésie. Et c'est ce qui est suggéré, par exemple, dès le titre qui indique l'enfant à l'ombre, double l'enfant à l'ombre. Cette ombre pourrait être celle de la mort dont on le menace, ou celle de ses disparus, et qu'il traîne partout sans pouvoir s'en défaire, la mort dans l'âme. Mais elle est également une ombre avec laquelle il joue, comme avec un cerf-volant, puisqu'il constate qu'elle est toujours attachée à lui, comme par un fil invisible. Donc, l'enfant, par ce traitement des mots, y apparaît comme un petit poète. Ainsi, un travail d'écriture est nécessaire pour faire ressentir ce qui a été vécu. Il s'agit de découvrir les mots qui font image, de manière à donner un supplément d'âme. Ces manipulations ne sont pas des mensonges. Elles arrivent à faire plus vrai que nature. Aragon parla du mentir vrai. Ici, il s'agissait de ne pas trahir la vérité, la Shoah, et d'être fidèle à la réalité d'un enfant blessé, en vue de faire partager son imaginaire, de faire comprendre au plus près ce qu'il a pu endurer. Mais l'auteur de Boubelet fut un des plus longtemps à publier son histoire après le traumatisme, et ceux qui furent encore plus jeunes continuent à garder le silence, ce qui en dit encore plus long sur leur expérience indicible. Voilà, je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions.
Ici se termine l'exposé d'Adolf Niesenholz, enregistré le 29 septembre 2016 à Dinan, et qui avait pour sujet autobiographie d'écrivain Anciens enfants cachés. Adolf Niesenholz a publié L'enfant terrible de la littérature, autobiographie d'enfants cachés, chez l'éditeur Didier Devillet en 2011.
Radio Campus, Bruxelles, 92.1.